Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les chemins de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation du régime sans gluten. Comment passer d'une contrainte épuisante à une routine véritablement libératrice. Imaginons un instant la scène, se retrouver devant son propre plan de travail, dans sa cuisine, et ressentir une vraie boule au ventre.
Oui, c'est terrible ça.
C'est ça, avoir peur qu'en préparant un simple repas, on puisse déclencher une réaction physique violente qui va nous clouer au lit pendant des jours.
Absolument. Et pour ceux qui vivent avec la maladie cœliaque, bah c'est pas de la paranoïa, hein, c'est le quotidien.
C'est une négociation permanente avec son propre environnement, en fait. Et aujourd'hui, on va explorer un document d'accompagnement vraiment fascinant. C'est le jour 9 d'un programme qui est conçu justement pour désamorcer cette peur.
Un texte très fort, oui.
Ce texte, il est signé Jida Ayad. Elle est docteure en sciences agronomiques, enseignante-chercheuse, nutritionniste. Et c'est vraiment le point fondamental pour comprendre la douceur de ces mots. Elle est elle-même malade cœliaque.
Oui, ça change tout. C'est vraiment une réflexion qui marie la rigueur scientifique avec la réalité intime du terrain.
Exactement. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, quel est le message central de ce document?
Eh bien, l'adoption d'un régime sans gluten, c'est initialement une charge mentale très lourde. C'est un état où on doit penser à tout, tout le temps. Mais en instaurant progressivement des automatismes d'organisation, bah, cette contrainte se transforme en une routine libératrice.
Une routine, oui.
Voilà. Le but ultime, c'est pas d'être parfait, mais de retrouver la liberté de vivre sans que la maladie ne prenne toute la place.
Et c'est un point tellement important. Parce que le mot routine, il a souvent mauvaise presse.
C'est vrai, oui.
On l'associe à l'ennui, à la rigidité, presque à une prison.
Oui, une routine oppressante.
Mais là, l'autrice nous montre l'inverse. Pour une personne cœliaque, c'est l'absence de routine qui est une prison, parce que ça épuise le cerveau.
C'est exactement ça. En psychologie cognitive, on appelle ça la fatigue décisionnelle. Notre cerveau, enfin surtout le cortex préfrontal, il a une capacité vraiment limitée à prendre des décisions chaque jour.
D'accord.
Quand on n'a pas de cadre, bah, chaque repas devient une évaluation de menace.
Ah oui, genre, est-ce que cette poêle a touché du blé hier? Ce genre de choses.
Voilà, ou au restaurant, est-ce que cette sauce est sûre? Chaque question est un calcul de probabilité épuisant. Ça consomme de l'énergie physique, littéralement.
C'est un peu, si on décortique un peu tout ça, c'est comme notre cerveau qui fonctionnerait comme un ordinateur, non?
Oui, très bonne image.
Avec plein d'applications ouvertes en arrière-plan. Même si on ne s'en sert pas activement, elle vide la batterie.
À vitesse grand V.
La peur de la contamination croisée, c'est cette grosse application qui sature la mémoire. Mais du coup, comment elle propose de libérer cet espace mental sans que ça rajoute de la pression de devoir s'organiser?
Bah, ce qui est passionnant ici, c'est que la solution réside dans l'anticipation. L'idée, c'est de transférer cette charge du cortex préfrontal vers les ganglions de la base, qui gèrent les automatismes.
Donc on n'y pense même plus.
Exactement. On ne se demande plus comment je vais survivre aujourd'hui, on agit simplement selon son propre mode d'emploi. L'énergie est préservée.
Et ce mode d'emploi, il commence à l'extérieur de la maison, en fait, dès les courses.
Oui, dans les allées du supermarché. C'est très stratégique.
L'autrice met en garde contre un piège très commun, ce réflexe de se ruer uniquement sur le rayon sans gluten.
Ah oui, le fameux rayon dédié.
Voilà, on le comprend hein, par facilité ou par peur, mais elle met un point d'honneur à différencier ces produits étiquetés d'une vraie alimentation équilibrée. Pourquoi c'est si crucial?
En fait, l'industrie agroalimentaire, pour retirer le gluten, elle fait face à un défi immense. Le gluten, ça donne le moelleux, l'élasticité.
La texture du pain, par exemple.
C'est ça. Pour imiter ça, bah, les industriels compensent avec des gommes, beaucoup de graisse, de sucre. Donc un biscuit sans gluten, ça reste un produit ultra transformé.
Donc ça calme la maladie cœliaque, mais c'est pas forcément bon pour la santé globale.
Voilà, ça peut créer d'autres déséquilibres. Donc, elle conseille d'organiser ses achats par famille de vrais aliments. Les végétaux, les protéines, les féculents naturellement sans gluten, comme le sarrasin ou le quinoa.
C'est un retour aux bases, quoi.
Tout à fait. Et il y a aussi la création de ce qu'elle appelle le stock de sécurité.
Ah oui, le stock de sécurité, j'ai trouvé ça génial.
C'est vital.
Anticiper les soirs de grande fatigue, avoir des légumineuses, des conserves simples.
Parce que face au fameux « Oh là là, j'ai rien à manger, je suis épuisé
C'est là qu'on prend de mauvaises décisions.
». Exactement. Pour quelqu'un qui n'a pas de contraintes, c'est une pizza commandée en vitesse. Pour une personne cœliaque, c'est un risque énorme pour sa santé. Le stock de sécurité, c'est une assurance contre nos propres baisses d'énergie.
Donc, une fois que les bons aliments, les aliments sécurisés, franchissent la porte de la maison, il y a un autre défi.
La cuisine.
Voilà, la cuisine, surtout si elle est partagée avec des mangeurs de gluten.
Le risque de contamination croisée.
Et là, elle propose de penser comme une scientifique. Faire une mini-analyse des risques, identifier, prévenir, vérifier, automatiser.
Une méthode très claire.
Mais je t'avoue, cette idée de penser comme une scientifique, est-ce qu'on risque pas de transformer une cuisine chaleureuse en une espèce d'usine agroalimentaire froide et stressante?
Je comprends qu'on puisse ressentir ça, mais le texte rassure tout de suite. L'objectif n'est absolument pas d'avoir deux cuisines séparées ou de porter une blouse blanche, hein.
Ouf!
C'est juste d'avoir des règles si simples qu'elles s'appliquent sans effort. Par exemple, avec les ustensiles.
Ah oui, éviter ceux qui sont poreux.
Voilà, le bois, ça absorbe le maillage très collant du gluten. Même lavé, ça reste un réservoir invisible de traces. Donc, la règle, c'est un ofarigno, on remplace la cuillère en bois par du silicone, c'est tout.
Et donc, c'est pas une usine, c'est juste de la physique de base.
C'est ça. Une règle trop compliquée, le cerveau l'abandonne vite. Là, c'est simple, c'est fait une fois pour toutes, et la cuisine reste un lieu convivial.
Et pour cuisiner au quotidien, sans y passer 3 heures, le texte parle aussi d'un répertoire de secours. J'ai adoré cette idée.
C'est très libérateur, oui.
C'est comme un filet de sécurité super réconfortant. C'est là que ça devient vraiment intéressant, car une bonne routine doit fonctionner même quand on est fatigué, non?
Absolument. Le répertoire de secours, ce sont 5 à 10 repas ultra simples qu'on peut préparer les yeux fermés.
Sans suivre de recettes compliquées.
Voilà, de l'assemblage. Une omelette, des légumes, des pommes de terre, ou alors des lentilles avec des légumes. L'idée, c'est d'avoir une base hyper sécurisante.
Le but, c'est pas de faire de la gastronomie tous les soirs, en fait.
Non, c'est de se nourrir sereinement. Ça fait baisser le stress instantanément quand on rentre du travail épuisé.
Donc là, on a sécurisé l'intérieur, les courses, la cuisine, les repas de secours. Mais la vraie vie, ça implique aussi des imprévus.
Ah, l'extérieur, les voyages, les restaurants.
Oui, comment on maintient cette sérénité quand on sort de sa zone de confort?
L'autrice dit qu'il faut transformer l'imprévu en anticipation. Si on voyage, on repère les lieux adaptés avant, on prépare des encas. Mais surtout, son conseil majeur, c'est de ne pas tout changer d'un coup. C'est un défi clair, automatiser une seule chose cette semaine.
Juste une seule chose?
Oui.
Ça peut être juste préparer sa liste de courses type. Ou juste aménager son tiroir d'ustensiles en silicone.
Pas besoin de révolutionner toute sa vie le lundi matin.
Non, ça ne marche jamais ça. Et elle propose aussi des petits rituels très doux. Le matin, se demander comment me simplifier la journée.
C'est bienveillant, ça.
Très. Et le soir, qu'est-ce qui devient plus facile? En fait, ça nous ramène aux 5 piliers de son approche. Anticiper, sécuriser, nourrir, s'adapter et simplifier.
Et on sent vraiment un glissement psychologique dans ce qu'elle décrit.
Oui, totalement.
Au début, c'est « je dois vivre sans gluten », une contrainte qu'on subit. Et ça devient « je sais vivre sans gluten ».
C'est une bascule majeure. On retrouve son pouvoir d'action.
Exactement.
Et je pense qu'on peut conclure sur une pensée vraiment profonde qui se dégage du texte.
Oui, avec plaisir.
C'est une réflexion à garder pour ceux qui nous écoutent. Le but ultime de tout ce cheminement d'organisation, paradoxalement, c'est pas de devenir un expert imbattable du sans gluten. C'est de ne plus avoir besoin d'y penser.
C'est exactement ça. L'effacement de la contrainte.
Quand l'alimentation devient une vraie habitude, bah le cerveau récupère enfin cet espace mental, de la place pour penser à ses proches, à ses passions, à ses rêves.
La vraie vie, quoi.
Voilà. C'est ça, la véritable victoire, enfin. Que la maladie s'efface un peu pour laisser toute la place à la vie. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.